Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle heure d'entretien avec les artistes dans l'actualité culturelle et ce soir avec Marc-Antoine Mathieu.
Un tango, une danse, un baiser.
Du pétapépépépépé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te bien.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Le rêve est un détour vertigineux. Une boucle qui passe par l'infini, le trou noir de la matière, les étoiles, notre inconscient, et nous offre les plus puissantes glissades de sens. Avec vos trois rêveries, nouveau projet publié aux éditions Delcourt, vous vous jetez dedans, corps, âme et tracé, Marc-Antoine Mathieu, et vous faites l'hypothèse poétique que la rêverie a présidé à l'éclosion de l'esprit humain. Ce n'est pas rien. Trois rêveries et trois formes de livres, un rouleau, des cartes déliées et un leporello, ce livre accordéon que l'on déplie et replie. Homo temporis, homo logos et homo faber, c'est leur titre, affirment une nouvelle fois votre appétit pour le vortex, votre plongée dans les causalités, votre amour du détail et des origines, et enfin, affirment ce noir, gris et blanc si beau qui sied à votre pensée. Bonsoir à vous Marc-Antoine Mathieu.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là, soyez le bienvenu. Je me suis demandé, entre autres mille questions, combien de temps de travail avait été nécessaire pour produire cette boîte noire qu'on ouvre et nous mettre ces trois livres, on va les dire comme ça pour l'instant. Combien de temps de travail? J'entends bien, ça peut être de la rêverie aussi.
Oui. Quand il s'agit de rêverie, c'est vrai que le temps est un peu difficile à quantifier, quoi. C'est le temps de la création, c'est un peu le temps de l'autiste. On ne sait pas trop qui il est. Mais bon, quand on essaie de regarder un peu en arrière, on essaie éventuellement, on essaie quand même d'y répondre. Alors, il y a des récits, et il y a des images qui viennent tout de suite et qui se réalisent dans la foulée. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliquées. Et puis généralement, c'est souvent d'ailleurs, c'est souvent pas ce qu'on croit. Là, par exemple, je pensais que Homo Logos me prendrait peu de temps, et en fait, c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Alors que d'autres récits paraissent plus compliqués à faire ou plus dessinés, et finalement, ils viennent beaucoup plus facilement. C'est variable.
J'essaie de le quantifier, ce temps-là, pour ces trois livres. Est-ce que déjà, vous les pensez comme une entité ?
Je dirais que c'est une année de travail, mais c'est un temps un petit peu un peu informe, un temps indéfini de rêverie. C'est toujours comme ça. Dans ce que l'on fait, dans ce que l'on crée, il y a tout un ensemble qui a été emmagasiné, je pense, une espèce de bagage qui devient à un moment donné mûr pour pouvoir être dit. C'est pour ça que c'est pas vraiment quantifiable finalement.
Est-ce que ce bagage contient aussi des connaissances, comment on pourrait dire, tangibles, des connaissances scientifiques? Évidemment, ces trois titres renvoient à un temps des origines, à la préhistoire, quelque chose qui est renseigné par la science. Ça fait partie de votre bagage à vous, Marc-Antoine Mathieu?
Oui, bien sûr. Oui, la science et puis peut-être la philosophie aussi, et une certaine forme de poésie, même si j'en lis pas beaucoup, pas tant que ça, pas assez, sans doute. Mais c'est vrai que trois rêves vient se greffer peut-être un peu de philosophie à un fond scientifique, à un corpus, on va dire, voilà, un petit peu scientifique.
Concrètement, ça veut dire que vous lisez, que vous lisez beaucoup et que ça participe de la nourriture de votre dessin.
Je pense pas que je lise beaucoup. Je pense qu'il y a des gens qui lisent beaucoup plus que moi.
Oui, il y a toujours des gens.
Par contre, j'ai l'impression de lire, avec gravité ou densité. Voilà, sans doute, peut-être. Je suis quelqu'un qui lit lentement, mais quand on lit de la science ou de la philosophie, je dirais que vaut mieux. Peut-être, mais c'est vrai que il y a comme ça les échos scientifiques dans Trois Rêveries, puisque dans Homo Logos, il se trouve qu'au moment où je dessinais Homo Logos, j'avais été invité par le CERN de Genève et j'étais allé voir l'accélérateur de particules, et il y avait comme ça une mini chambre à bulles dans laquelle on voyait les traces des particules cosmiques qui traversaient un gaz à la limite du liquide, et dans lequel on voyait comme ça des micro-bulles pousser. Et c'était la trace, en fait, de ces particules cosmiques. Et c'était exactement ce que j'étais en train de faire. Donc, il y avait comme ça un écho à la fois scientifique et poétique. Il y a eu comme ça un dialogue entre ce que je voyais et ce que je faisais. Il y a des moments comme ça dans la vie assez précieux où tout se corrobore, où tout se rejoint. C'est bien.
Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot récit. Si ces trois rêveries sont trois récits, alors qu'est-ce qui vous tenait à cœur de raconter dans ces trois récits-là?
Je pense que je suis plus un raconteur qu'un illustrateur ou qu'un peintre. Donc, je suis plus dans le récit que dans le geste. Donc, du coup, il était logique que je fasse des récits, même si Homo Faber, par exemple, est un récit qui peut se mettre dans un ordre ou dans un autre ordre. Mais il y a toujours un récit dans la mesure où il faut qu'une image en amène une autre. Il faut toujours qu'il y ait un mot en amène un autre. Ça, c'est un peu, j'ai découvert ça après de beaucoup d'années de réalisation, même dans ce que je peux faire en tant que scénographe ou sculpteur à mes heures. J'ai toujours envie de raconter une histoire.
Mais alors, pour ces trois rêveries-là, ce serait raconter quelles histoires?
Alors, justement, c'est compliqué.
Vous avez vu que je m'y engage pas, hein. C'est pas moi qui les raconte.
Mais oui, est-ce que c'est des histoires? Je sais pas. C'est des récits parce qu'il y a quand même un temps. Il y a un chemin, il y a un sentier, il y a une errance, il y a une promenade que je propose. Après, c'est un petit peu, je pense, au lecteur d'aller découvrir, de rentrer un peu dans le sous-bois, voire dans la forêt qu'il peut y avoir de chaque côté. Je l'ai un peu cherché, j'ai un peu travaillé ça. J'ai laissé en fait la possibilité de lecture et de relecture et d'interprétation au maximum. D'ailleurs, j'ai laissé venir à moi aussi des images que je comprenais pas, que je saisissais pas forcément. Le travail là, il était plutôt de rendre un petit peu assez fidèlement des choses que je ressentais et que je trouvais belles, qui me touchaient, quoi. Donc j'essaye simplement de retranscrire ça.
Quand on ouvre cette boîte des trois rêveries, il y a trois choses que jusqu'alors j'ai appelées livres. Moi, c'est bien de les appeler livres.
Oui, on peut.
Et trois formes différentes. On va écouter Alberto Manguel parler de la forme des livres.
Lorsque je choisis un livre à amener au lit ou à poser sur un pupitre, à offrir ou à lire dans le train, tiennent compte de la forme autant que du contenu. En fonction de l'occasion, en fonction de l'endroit où j'ai décidé de lire, je préférerais quelque chose de petit, d'intime ou d'ample et substantiel. Les livres s'affirment grâce à leur titre, grâce à leurs auteurs, leur place dans un catalogue ou une bibliothèque, leurs illustrations de couverture, mais par leur taille aussi. En fonction des époques et des lieux, j'ai appris à attendre des livres des apparences diverses. Et comme dans toutes les modes, ces traits changeants attachent un caractère précis à la définition d'un livre. Donc, je juge un livre à sa couverture et je juge un livre à sa forme.
Alberto Manguel, lui aussi, c'est un grand lecteur en 2005, qui juge le livre à la fois au titre, à la couverture, à l'auteur et à la forme. Qu'est-ce qui s'est imposé pour chacun et qu'est-ce que vous produisez en faisant ce choix formel fort, Marc-Antoine Mathieu?
Pour Homo Faber, c'était logique qu'elle ne soit pas reliée, puisque c'était des images que j'avais faites et qui étaient qui se suivaient, mais en même temps que j'ai fait dans un ordre qui n'était pas le bon présenté dans la boîte. Donc du coup, je me suis dit, c'est stupide de les relier. Alors c'est un récit qu'on peut déstructurer. Dans le Leporello, étant donné que ça parlait du temps, c'était intéressant d'avoir une frise. Et c'était intéressant également d'avoir qu'un recto, donc le Leporello là s'est imposé aussi. En ce qui concerne le ruban, c'est différent parce que il est venu en troisième et là, c'est lui qui a, il y a vraiment un rapport entre le fond et la forme là qui s'est opéré. Cette idée de faire parler le cosmos, ça a bien collé avec cette idée de ruban qui pouvait comme ça s'étaler, un ciel qui démarre et qui n'en finit plus. Et qui est à l'origine et puis à l'arrivée de toute chose, ça paraissait assez beau. Mais dans les trois récits, on a des objets qui démarrent à un endroit mais qui auraient pu commencer avant et qui se terminent à un moment mais qui auraient pu aussi se terminer plus tard. Donc c'est ça qui était bien aussi, c'est que dans un livre, il y a quelque chose de définitif, un peu terriblement définitif parfois, ce qu'on n'a pas forcément là.
Et ça produit une forme aussi de drôle de temporalité, de surprise. Par exemple, là, je déplie le rouleau. Et puis, en fonction du temps que je mets à faire rouler le rouleau pour libérer l'image, en fait, ben, je crée une scénarisation différente à chaque fois. Et ça veut dire que vous nous incluez, Marc-Antoine Mathieu, d'une manière très active, presque dans l'écriture de ces rêveries-là.
Oui. Alors, je crois que c'est le but, je pense, de toute création, de tout livre, de tout créateur d'images ou de faiseur d'images ou de textes ou de musique. Je pense que c'est donner quelque chose au lecteur, au regardeur, et surtout quelque chose à réinterpréter, à ce qu'il puisse lui-même refaire quelque chose avec ce qu'on lui offre. Avec le ruban, ce que je veux dire, ce qui est bien, c'est que on se promène dans le temps et dans l'espace plus qu'encore que dans un livre. En plus là, c'est un ruban qui est muet et puis qui va un peu vers une forme d'abstraction. Il y a résolument, là je m'en suis aperçu après, une espèce de volonté de faire peut-être un poème graphique. Voilà, il y a un peu cette idée là. Donc de toute façon, si c'était pas réinterprétable, ce serait ni un livre ni un essai poétique.
Quand vous dites que c'est muet, c'est parce qu'il n'y a pas de mots. C'est ça qui est muet,
voilà,
pour vous.
Voilà, c'est ça. Il y a pas de texte. Pour un auteur de bande dessinée, quand il n'y a pas de bulle, on dit que c'est muet. Voilà. Et c'est un peu injuste parce qu'on peut tout à fait. Il y a beaucoup de récits soi-disant muets qui parlent bien plus évidemment que des bandes dessinées qui ont plein de bulles.
On peut presque entendre, par exemple, là, je continue de dérouler le rouleau. On peut imaginer que ce cosmos-là. À un son, qui a quelque chose de très vaste, au contraire. Est-ce que vous, quand vous avez dessiné cette rêverie-là, c'était si muet que ça à l'intérieur?
Ah ben non, bien sûr. Non, bien sûr. C'est effectivement, prétentieux de dire ça, mais il y a comme une symphonie. Je me suis plongé dans cette histoire-là, d'ailleurs sans du tout imaginer que ça m'emmènerait aussi loin. Encore une fois, ça m'a pris beaucoup de temps, mais un temps justement indéfini, ce qui est un peu le signe qu'il se passe quelque chose. Quand je vous vois effectivement
dérouler le ruban,
c'est très agréable de voir quelqu'un le dérouler. Mais ce qui est intéressant aussi dans Homologos, dans ce ruban, c'est que il y a aussi quelque chose qui va en profondeur. C'est un ruban où il n'y a pas d'horizon, c'est-à-dire qu'on est dans le vide aussi de la pensée, dans le vide de l'espace et dans le trou du temps. Donc c'est ça moi que j'ai ressenti surtout en le faisant, puisque en le faisant je ne l'ai pas fait, j'ai pas fait un dessin qui faisait 8 mètres de long.
C'est ma question évidemment. Là on se demande comment vous travaillez concrètement, Marc-Antoine Mathieu, parce que j'espère que c'est audible hein, pour les gens qui nous écoutent, mais en gros, ça fait quoi, 8 mètres de long?
Oui,
ce
c'est
rouleau,
ça, à peu près.
Que là, j'ai entre mes mains, mais si je les tirais, on excéderait très largement le studio. Et c'est une plongée qui part d'un ciel étoilé et qui nous emmène vers une sorte de matérialisation du langage et de la pensée, qui nous emmène vers notre condition humaine d'une certaine manière. Alors vous vous déplacez comment quand vous travaillez, Marc-Antoine Mathieu, dans cette espèce d'espace-temps infini? Avec quels outils?
Alors, c'est très simple. Encre de Chine noire, encre de Chine blanche, papier, parfois du crayon, des gommes, et puis l'ordinateur. Beaucoup de Photoshop, parce que Photoshop permet de préciser, d'aller très loin dans la précision des choses. Là, dans le ruban, j'avais envie que des choses complexes au premier plan puissent s'éloigner dans le lointain et qu'elles soient toujours aussi précises dans le lointain. Donc ça, c'est absolument impossible à réaliser sous façon fermée, peut-être pendant 15 ans dans une chambre.
À la main, vous voulez dire ?
Ce serait à la main.
Impossible.
À la main,
ce
serait impossible, ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà, c'est des outils assez classiques, assez traditionnels. Ouais.
Et vous faites quoi ? Vous visualisez les 8 mètres de long ? Vous avancez vous aussi progressivement dans l'écriture graphique de ce long poème ? Ou ça procède beaucoup plus de manière découpée ?
Moi, j'avais vaguement l'idée du début et de la fin, vaguement, parce qu'en fait le début a été retravaillé, la fin aussi. Puis entre les deux, je savais que je voulais parler comme ça des signes et puis de l'humain qui nomme comme ça, qui nomme la nature, qui nomme les choses, qui s'en détache pour mieux y retourner. Mais comment faire ? Et là, c'est un peu de l'improvisation. C'est une improvisation sur 6 mois, quelque chose qui se fait, que je redéfais, que je retisse. Je me sens d'ailleurs un peu plus dans ces cas-là, un peu plus architecte. J'avais un peu le même sentiment pour 3 secondes, où je me sentais plus architecte que dessinateur. C'est-à-dire une idée, une bonne idée, oui. Bon, puis comment la monter Et là, on se retrouve un peu en discussion avec le bureau d'études. Quoi. Comment on va architecturer tout ça pour que ça tienne debout
Sauf que le bureau d'études, c'est votre tête.
Bah voilà, c'est un dialogue de soi-même entre l'architecte qui crée et puis un peu l'ingénieur. Et là, c'était un petit peu pareil, mais avec une dimension beaucoup plus plaisante que pour 3 secondes, parce que c'était un bureau d'études qui a vraiment pris son temps, qui était sur un temps de promenade, sur un temps de balade dans la campagne à la nuit tombée, peut-être quelque chose comme ça.
Dans votre tête.
Oui.
En feuilletant ces 3 rêveries, non, en y plongeant, je me suis dit qu'il y avait un goût très affirmé pour l'origine, c'est-à-dire la question de qu'est-ce qu'il y a au début, essayer de remonter, alors ici, au langage, à notre façon de nous éloigner du réel tout en s'en rapprochant par les mots et les signes, mais aussi à l'usage que nous faisons des outils, comme s'il y avait dans ces 3 rêveries quelque chose qui remonte le temps.
Oui. Il y a la création du temps, il y a la création du signe, il y a la création de l'outil. Donc c'est un peu un triptyque. C'est passionnant. C'est quand on se pose la question des origines ou de l'origine, on se pose forcément la question de l'être ou même de l'être à soi, de l'être à soi-même. Et quand on se pose la question de l'origine de l'univers, on se pose par exemple forcément la question du temps. On pourrait penser par exemple que le temps au début n'existait pas, que le temps n'a pas toujours existé et que c'est après l'origine entre guillemets que le temps s'est mis à exister. Et si c'est ça, par exemple, bah, du coup, le problème de l'origine ne se pose plus. L'origine n'a peut-être jamais eu lieu, mais c'est simplement une vision du temps qu'on a, ce fameux temps que l'homme, lui, a inventé, a créé, et qui fait que, par retour de balancier, par retour boomerang, il a absolument besoin qu'il y ait une origine. C'est rassurant, d'une certaine manière.
Exactement, tellement besoin que votre travail bousculant ce besoin-là, très rapidement, on peut, en tant que lectrice et lecteur, être aux prises avec une grande perte, avec une forme de vertige, comme si vous cherchiez ça, Marc-Antoine Mathieu, que votre dessin, en tout cas pour ce projet-là, ce triptyque, était une sorte de, oui, j'utilisais tout à l'heure, de glissade de sens ou d'abandon, qu'il faut lâcher quelque chose.
Oui, c'est ça. On ne peut pas mieux dire, je pense que... Il y a des moments comme ça où on prend le... Enfin, c'est pas un risque, c'est... On est bien entouré aussi, on est entouré de gens qui nous aiment, qui nous font confiance. Là, je parle par exemple tout bêtement aussi de mon éditeur, qui c'est pas rien, quelqu'un qui simplement fait confiance. Donc à partir de là, on peut lâcher un peu prise sur certains dans le faire comme ça, et puis se laisser à la promenade et à la rêverie. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux évidemment pour un créateur, puisque finalement, le créateur, bon, bah, c'est un chercheur. C'est un chercheur qui laisse la possibilité à la nature ou à ce qu'il a en lui profondément enfoui de venir à lui. C'est ça qui est important dans la promenade, dans la balade et dans l'errance.
En dessinant comme ça sur le bateau, pourtant la mer était plate et calme. Hein. Ouais. Moi, je souhaitais une tempête, ouais. Hein, mais pas pendant toute la traversée, mais au moins deux jours.
On a eu un petit truc, mais on a eu une nuit, je me rappelle, de chahut.
Je devais dormir, alors.
On appelle ça comme ça.
Oui. Mais alors, et donc quand j'ai dessiné, eh bien, je me suis rendu compte que d'un seul coup, le crayon et le feutre, ou les plumes, enfin, partaient dans une autre direction. C'était pas tout à fait, tu vois, un dessin, bon, on l'a en tête, puis on le représente au bout des doigts, quoi. Il est tout de suite figé, mais on l'imagine une fraction de seconde avant, quoi. Il est déjà dessiné. Ouais. Moi, je me suis rendu compte de ça sur le bateau, qu'il y avait une anticipation qui était de quelques fractions de secondes, mais en tout cas, c'était dans la tête, et puis on le reproduit comme ça. Moi, avant, je pensais toujours, pourtant je dessine depuis des années, j'ai fait des milliers de dessins, mais je posais le crayon, puis hop, ça partait, c'est comme si la feuille était déjà imprégnée presque du dessin, puis on le reproduit ça un peu, tu vois. Est-ce que là, je me suis rendu compte que le bateau en bougeant, même très légèrement, et ben il faisait bifurquer le crayon, hop, c'était bien, ça partait un peu dans, j'étais obligé de me concentrer beaucoup plus, et puis encore de travailler autrement, quoi. J'aurais pas pu faire par exemple une bande dessinée ou un dessin libre sur une feuille, ça va encore, mais un truc bien précis comme avec des cases et tout, c'est impossible, quoi. Là, c'est un dessin libre, c'est-à-dire c'est sur une page, et puis je fais pas de crayonné. Vous voyez, je mets pas de mise en place. Oui, justement, donc ça doit être très bon ou rien. Si je sens qu'il est pas bien, je peux le jeter, c'est fini, ça est terminé. Je recommence pas, là, je l'aime pas, là, il est bon ou pas, quoi. Donc s'il est pas bon, alors donc je suis obligé de faire un bon dessin. Donc il y a une telle concentration que, je disais tout à l'heure, la comparaison avec un acrobate qui fait ça sans filet, sans retenue, c'est-à-dire il tombe, il meurt. C'est pas de la rigolade, là. Il tombe, il meurt, vraiment, quoi. Et moi, j'arrive à me conditionner en pensant comme ça. C'est comme si je ratais le dessin, j'allais mourir. Il fallait sauter par la fenêtre, là. Alors, évidemment, je le ferais pas. Mais quoique, je prends des fois dans des moments comme ça, un peu. Mais s'il y a un trapèze, on le fait. Hop, je saute par la fenêtre, je prends le trapèze et hop, je passe. Sur les nuages, là, c'est bien.
Marc-Antoine Mathieu, c'est une archive de l'auteur de BD Fred, dans l'émission Le Bon Plaisir en 1994 sur France Culture. Et tout à l'heure, vous avez, juste avant de vous reprendre, mais vous avez prononcé le mot de risque, qu'il prononce lui aussi à plusieurs reprises, comme s'il y avait quelque chose qui lui échappait, et on disait travailler à sa propre perte de repère. Eh bien, il dit ça aussi. Est-ce que pour vous, plus le temps passe, plus votre travail d'auteur de bande dessinée ou d'auteur tout court, d'une certaine manière, eh bien, se rapproche d'un risque ?
J'ai pas vraiment eu l'impression de prendre des risques. Et j'ai plutôt le sentiment d'avoir toujours eu la chance de pouvoir en prendre. Donc je pense
c'est
pas.
C'est subtil comme différence.
Oui, je pense que quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un qui est conscient peut-être des risques, ou c'est celui qui les pèse. Or moi, je pense plutôt avoir eu la chance de passer entre les gouttes des risques, et puis de m'être aperçu après coup qu'effectivement il pouvait y avoir un risque. Mais alors ça vient peut-être aussi du fait que je n'ai pas eu besoin d'avoir absolument envie de faire de la bande dessinée. C'est quelque chose que j'ai pratiqué au début vraiment comme un violon d'ingres important, mais pas plus qu'un violon d'ingres. Et c'est ça ce qui a fait que, il n'y avait pas, je dirais, grand risque en fait. C'est une chance de pouvoir faire ça.
Certaine manière, qu'il n'y ait pas grand risque dans cette pratique artistique, vous a peut-être laissé la possibilité d'aller au risque de votre créativité, de votre pensée.
Voilà. Mais du coup, il n'y a plus de risque. Vous voyez, c'est, en fait, hop, j'ai pu entrer finalement dans ce qu'il fallait que je fasse d'une manière peut-être un peu plus sereine ou inconsciente à choisir.
Alors c'est quoi la bande dessinée si c'était un violon dingre, certes précieux et important, mais tout de même une sorte d'à côté, puisqu'on entend des frettes.
Ah, disons qu'il y a des à côté qui sont plus importants que les en dedans, peut-être. Bon, lui, Fred, c'est quelqu'un qui est complètement total, quoi, qui dès le départ a fait du récit et des histoires quelque chose de fort, d'entier. Il est rentré dedans. Il a continué malgré que ça n'avait pas de succès au début. Hein, Goscinny l'a. Il était avec Goscinny, une belle personne qui lui a dit mais non, faut continuer parce que c'est ça ce qui est vrai, c'est la poésie qui est vraie et c'est pas les sondages d'opinion. Donc lui, effectivement, je pense qu'il était peut-être plus dans le risque et dans le doute que moi, quoi.
Vous lisez de la bande dessinée, enfant, adolescent, vous avez une culture de ça très forte, y compris de la bande dessinée d'enfants et d'adolescents, le tout venant un peu. Et comment est-ce que vous arrivez à tout de même quelque chose, comment on pourrait dire ? Vous disiez tout à l'heure que Fred a un rapport à la bande dessinée du côté de l'absolu, mais on peut dire que Les Trois Rêveries, c'est un peu ça quand même, Marc-Antoine Mathieu.
Oui, oui, oui.
Que vous arrivez à un endroit d'absolu, de non-négociation, ni avec le fond, ni avec la forme, ni avec le poème.
Oui, mais grâce justement à Fred, par exemple. Moi, j'ai découvert Fred quand j'avais 12-13 ans. C'est une chance énorme. C'est quelque chose qui vous fonde en fait. La poésie de Fred, il y en a d'autres. Hein. Il y a des gens comme évidemment Moebius, il y a Hergé, Winsor McCay, Little Nemo. Ce sont des gens qui font qu'à un moment donné, vous sentez, vous ne le savez pas, vous le formulez pas, mais c'est quelque chose qui met des petites des jalons, hein, qui vous montre le sentier, un sentier qui vous est inconnu, mais vous savez qu'il existe. Et ça, c'est une vraie chance, quoi.
Et vous étiez déjà en contact avec le dessin, avec votre propre
dessin ?
Oui,
je dessinais déjà, j'aimais bien dessiner, je racontais déjà un peu des récits dans des histoires qui étaient condensées, hein, dans une illustration. Il n'y a pas forcément des cases les unes après les autres, il n'y avait pas forcément des récits de bandes dessinées, mais il y avait comme ça quelque chose qui devait être dit, qui devait se raconter, à travers des récits évidemment complètement classiques, parce que Il faut du temps pour se dépouiller, quoi, des choses. Même quand j'étais enfant, il y avait déjà beaucoup de choses, beaucoup de communication, beaucoup de mots, beaucoup d'images, l'école, tout ça, il y a tout un tas de raisons pour ne pas aller à soi-même, en fait. Bon, ça, c'est un peu évident de dire ça, mais...
Non, ça fait du bien.
Bon, c'est encore plus évident aujourd'hui, mais même à mon époque, quand j'étais gamin, c'était déjà ça. Donc, se nettoyer de tout ça, et puis passer par plein de dessins qui sont faits un peu de digestion, des fois des bonnes, des fois des moins bonnes, voilà, tout ça. Et puis, de temps en temps, on voit tout d'un coup des choses incroyables. Francis Mas aussi, par exemple, je le cite à chaque fois que je le peux, parce que lui est moins connu, mais c'est un grand bonhomme aussi, un grand poète.
Et le dessin, c'est un bon moyen pour aller à soi-même, pour reprendre votre expression ?
Oui, je pense. Mais c'est pas forcément mon cas. Moi, je m'estime pas être vraiment un dessinateur. Plus un raconteur d'histoire, et puis le dessin est là, on va dire, en appui. J'ai l'impression que ce que je veux dire, ce que je veux signifier, passe plus par des mots. Et le dessin permet, bon, c'est une forme de, un peu, peut-être, je pense, de béquille, et je pense ça dès le départ. Il se trouve que, avec le temps.
Il se trouve que 3 avril, il n'y a pas un mot, il n'y a que du dessin.
Oui, complètement. C'est vrai. Mais les mots sont là, les mots sont dans l'interprétation du lecteur, hein. Ça, c'est sûr.
Vous vous sentiriez d'écrire 3 rêveries en texte? Franchement, bon courage.
Ben non. Non, parce que justement, je suis quelqu'un des mots. Enfin, j'écris d'abord avant de dessiner. Mais par contre, franchement, je suis un piètre écrivain, quoi. Heureusement, voilà, j'arrive au bon moment. En fait, il y a la bande dessinée existe.
Il y a une forme de scénarisation de ces 3 rêveries qui existent au préalable pour vous, Marc-Antoine Mathieu, sous forme d'un texte.
Alors non, justement. Non, c'est vrai que là, non. Non, clairement, c'est des choses qui ont été dessinées un petit peu comme ça. Mais derrière, il y a des mots, il y a beaucoup de mots, justement, les mots dont on parlait tout à l'heure, qui sont dans les livres et que j'ai lus et qu'on fait leur petit bonhomme de chemin et qui donne ce résultat.
On entendait aussi dans cette archive, Fred faire mention d'un voyage en bateau.
Ah oui, magnifique.
Et de se dire que, en fait, presque le mouvement du bateau ou la temporalité de ce voyage avait fait que son trait lui avait peu à peu échappé et que la prescience qu'il avait avant de son propre dessin, avant qu'il n'arrive sur la feuille, avait disparu. Que le délai de temps entre l'image mentale et la réalisation de cette image, c'était complètement compressé et que finalement il se mettait à dessiner avant même d'avoir pensé au dessin. Qu'est-ce qu'il en a été de ce côté-là pour les 3 rêveries, Marc-Antoine Mathieu? Parce qu'on se demande comment ça avance dans votre tête.
Oui. Avant de répondre, j'aimerais quand même citer une petite anecdote et ça qui m'avait fait penser un peu à Fred à l'époque. Et je discutais avec l'astrophysicien Jean-Marc Lévy-Leblon qui m'avait raconté que quelqu'un qui dessine sur un bateau, si on arrivait à...
Vomit.
Oui, déjà. Enfin, moi, en tous les cas, c'est quasi sûr. Mais mettons que ce soit un dessinateur qui soit marin en même temps, qui vomisse pas. Il arrive à faire un dessin. Mais il m'expliquait que si on regardait le dessin, si on arrivait à analyser le trait, finalement, on verrait pas le dessin. On verrait une espèce de trait qui se promènerait dans l'espace, parce que le bateau se déplace. Donc, on aurait comme ça un dessin qui se déploierait dans le temps. Et voilà, donc la distance du dessin, la distance du crayon sur le papier est plus grande que celle qu'on croit. Et donc voilà, donc j'offre cette magnifique pensée de Jean-Marc Lévy-Leblon à Fred. Voilà, au-delà du temps, au-delà d'espace, et au-delà des mers et au-delà de l'Atlantique. Voilà, je lui donne, cette belle
pour
pensée.
Pour être certaine de bien vous comprendre, ce serait à contrario d'une personne qui est assise à sa table et qui, pendant le trait, ne bouge pas. Dans ce que vous dites là,
voilà,
c'est que dans un trait est contenu aussi, d'une manière muette et aveugle, la distance parcourue par le bateau.
C'est ça. Mais en même temps, quand on est sur la terre et que c'est un bateau...
Ça bouge tout le temps.
Voilà, tout à fait.
Même nous, on bouge en fait.
Je crois qu'on va à peu près à 30 000 km/h. La planète Terre va à cette vitesse-là autour du Soleil.
Donc en fait, notre trait est rarement immobile.
Oui, c'est ça. Rien n'est immobile de toute façon.
Alors pour répondre à ma précédente question,
oui,
à savoir comment ça avance dans votre tête.
Comment ça avance dans ma tête
Est-ce qu'il y a une image mentale qui précède systématiquement
parfois,
l'image
oui,
réalisée?
Parfois oui, c'est très variable. Des fois pour les Julius Corentin Aquefac par exemple, ça peut être des scènes ou des dialogues. Et ces dialogues-là, entre des personnes, vont faire naître un décor, une perspective, une situation. Et puis des fois, si ça m'étonne, je l'apprends. Si c'est pas étonnant, je l'apprends pas. Ou il faut que ça me fasse rire aussi des fois. Et puis pareil, d'autres fois, ça va être au contraire, ça peut être un aplat de noir qui va me suggérer quelque chose. Ça peut être une forme, ça peut être quelque chose d'abstrait. C'est assez variable. Simplement, il faut que cette chose-là germe, quoi, fasse que j'ai envie d'y aller.
De la suivre d'une certaine manière.
Voilà.
De batterie. Louisville. Des Anglais. Des Américains. Des Américaines. Elle est américaine. Sa voix descend vers les pierres. Ses graines remontent. Une corde faite de draps noués. entière. Sa bouche bouge comme celle d'un cheval. Elle s'appelle. Elle s'en fout de l'écho. Louisville est la plus belle. Elle s'échappe.
Sont des cow-boys solitaires qui disent baby, qui en ont bavé, qui se laissent illuminer soudain par une little girl bien faite, qui souvent n'ont l'air de rien. Il y a des gens qui ne viennent pas de Louisville, qui pourraient pourtant, comme il y a des filles qui viennent de Louisville.
Un certain nombre de possibilités, mais qui ne savent trop que faire de cette liberté dont elles se vantent. Et celles qui ont fait ou subi depuis les guerres une révolution de masse et qui ont la liberté d'opinion, c'est-à-dire la liberté de se plaindre, mais sans passion profonde, et où la misère est à la porte, mais on dirait qu'il n'y a plus rien à faire qu'à l'attendre. La misère, dernier argument, dernier fondement de la communauté moderne. Elle est la toile de fond de tous nos drames, de nos pensées, de nos actions et même de nos utopies. Étant bien clairement entendu que l'essentiel n'est pas ce qu'un dictateur pense, n'est pas l'urgence matérielle, mais une vérité plus haute, qui est la vérité à hauteur d'homme, et j'ajouterai, à portée de main. Il est grand temps que la pensée redevienne ce qu'elle est en réalité, dangereuse pour le penseur, et transformatrice du réel. Là où je crée, je suis vrai, écrivait Rilke. Les uns pensent, dit-on, les autres agissent. Mais la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains. Je ne dirai pas de mal de nos outils, mais je les voudrais utilisables. S'il est vrai en général que le danger n'est pas dans nos outils, mais bien dans la faiblesse de nos mains, il n'est pas moins urgent de préciser qu'une pensée qui s'abandonne au rythme de ses mécaniques, proprement, se prolétarise.
On entend un extrait de « Penser avec les mains », c'est un texte de Denis Rougemont qui figure dans « Histoire de cinéma » de Jean-Luc Godard. Et pour poursuivre avec vous cette conversation consacrée à vos trois rêveries publiées chez Delcourt, dans ce texte-là, ce court extrait, il est encore question du risque de penser avec les mains. Et dans ces trois rêveries, on disait tout à l'heure qu'il y avait un rapport à l'origine ou à l'abandon de la pensée de l'origine, mais il y a aussi un rapport à la main, à l'outil, à ce début d'humanité qui travaille l'outil pour la première fois. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans ?
Quand on réfléchit un petit peu à la main, c'est on est pris de... Comment dire ? Enfin, la main, c'est à la fois absolument magnifique et tragique. C'est-à-dire que c'est l'homme se retrouve prisonnier de sa main, d'une certaine manière, prisonnier d'un outil incroyable qui va lui faire faire des choses, qui va à la fois le libérer, puis en même temps qui va le prédestiner. Comme disait, je ne sais plus quel sociologue, l'homme fabrique l'outil, et ensuite l'outil le fabrique. Enfin, l'outil façonne l'homme. Au fond, voilà. Que serait-on aujourd'hui sans un smartphone, par exemple ? Ça fait un peu peur. Cet outil qui, même au départ, la main qui prend un caillou et qui l'envisage, là, comme le fameux Galen Macapansgat que je mets en scène dans Auto, ce galet-là, aurait-il été pris s'il n'y avait pas eu la main ? Voilà, donc la main et le regard sont un tandem, à mon avis, qui ont un tandem assez idéal et qui, effectivement, la main et le regard dialoguent. La main et le regard qui a créé l'autre le premier, difficile de savoir. Mais c'est vertigineux comme questionnement.
Et à la fois ce vertige-là du sens et de la pensée crée une forme de, je sais pas, d'émulation, comme si ça nous faisait un peu flamber à l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas que un vertige de pensée qui nous découragerait, nous annihilerait. C'est à la lecture et à la relecture de ces trois rêveries, il y a quelque chose d'assez incandescent qui se produit.
Ah bah merci, c'est vraiment, je suis très ému d'entendre ça. Je sais pas trop quoi.
Non, mais peut-être dire alors pour éviter que ça ressemble uniquement à un compliment, peut-être oui. Dire que penser avec les mains, c'est aussi faire des choses, c'est aussi produire du mouvement et donc éventuellement transmettre oui, cette pensée avec les mains. Ça
oui,
met l'autre en mouvement.
Oui, bien sûr. À partir du moment où on a des mains, on a plus le choix d'une certaine manière. La main, c'est aussi la pensée. L'homme se retrouve avec du coup avec la main, avec cette pensée, avec ce regard. Il a plus le choix. Il s'est définitivement un peu détaché de la nature. Il a plus le choix de faire. Il a plus le choix de dire. Il a plus le choix. Il n'a plus d'autre choix que de nommer et que de faire, etc.
Et donc c'est ça qui est beau. Vous avez l'impression de faire ça, de penser avec les mains, de penser en dessinant ?
Bien sûr, mais pas, à mon avis, peut-être pas plus qu'un pâtissier qui ferait, vous voyez, qui façonnerait des croissants, lui aussi, d'une certaine manière, pense avec ses mains. Ce qui peut, avec le dessin ou avec la musique, l'avantage, c'est qu'on on a peut-être plus d'espace. L'espace d'exploration semble plus grand. Mais en même temps, j'en suis pas bien sûr. Un moine qui médite sur une pierre, est-ce qu'il va pas plus loin, plus profondément, que celui qui explore les mers de la Terre entière. C'est pas sûr.
Je profite qu'on soit un peu avec Godard pour vous poser la question du cinéma. Vous dites la musique et c'est pas la première fois, Marc-Antoine Mathieu, parce que tout à l'heure, quand on déroulait le rouleau, vous disiez que peut-être c'était muet, mais qu'en fait c'était symphonique. Quel rapport entretient votre pratique, votre art, quelle que soit la manière dont vous le qualifiez, avec le cinéma ?
J'ai l'impression, a priori, assez peu. Il me semble que...
Ça m'étonne pas.
Oui, ou alors un cinéma très particulier. Hein. Ce serait le cinéma de plutôt de Coris Maki, ou un cinéma comme ça qui permettrait, ou de Tarkovsky, enfin le cinéma qui permet justement de pouvoir s'accaparer un temps. Or, il me semble que les cinéastes sont peu nombreux, ceux qui s'en sont posés la question du temps, mais qui se sont posés vraiment d'une manière précieuse, importante, pourquoi ? Parce que, pour des raisons, tout simplement, purement économiques. Donc le cinéma, finalement, on pourrait croire que c'est un art du temps, et en fait, pas du tout. C'est un art d'autre chose, le cinéma. Je sais pas trop bien quoi, d'ailleurs, parce que je suis pas un spécialiste.
Mais... Bon, il y en a quand même pour qui c'est l'art du temps. Hein. Je cite au passage pour nos auditrices et auditeurs qu'on a reçus récemment, Bellatar à ce micro.
Ah bah, bien sûr, Bellatar. Je parlais en général, bien sûr, Bellatar, quoi. Smaiky, et peut-être, à un moment donné, peut-être Kubrick, ou des bien sûr, qu'il y a des cinéastes comme ça, et Wenders. Et
Wenders,
Paris, Texas, ça c'est un cinéma du temps. Ou Lucky, par exemple, on parlait tout à l'heure des cow-boys. Bon, là on est vraiment dans un cinéma qui effectivement prend du temps. Mais en général, force est de constater que le cinéma enchasse, enferme le regardeur dans un temps donné qui l'empêche d'avoir une vraie réinterprétation des dialogues, de ce qui se passe, du décor, des choses.
Que votre dessin essaie d'éclater la possibilité du regard.
Bah, l'intérêt du dessin, l'intérêt de l'image fixe, et c'est peut-être une des vérités de la bande dessinée, c'est que avec cette image fixe et ce texte associé, tout est réinterprétable. Le temps du lecteur de la bande dessinée est le même temps que le temps de la littérature, un temps qui appartient définitivement au lecteur. Donc ça, c'est une richesse, ça c'est vraiment des arts du temps. C'est pour ça que je faisais un petit peu la différence. Pour faire un cinéma qui prend en compte le temps et le temps du regardeur, le temps du spectateur, il faut un cinéma qui prend son temps. Comme disait Lanzmann, la vie prend du temps d'une certaine manière. Il avait raison. C'est-à-dire, donc c'est des films qui souvent sont longs, avec des plages de temps. Et je pense que le spectateur aspire beaucoup plus à ça qu'on pourrait le penser.
L'idée, c'est la présence du labyrinthe, non ? Et puis l'idée d'un labyrinthe perdu aussi, c'est là m'amuser, non ? L'idée de ne pas se perdre dans un labyrinthe, mais dans un labyrinthe qui se perd aussi lui-même, non ? Il y a quelque chose là que j'ai trouvé drôle, ou en tout cas qui a stimulé mon imagination. Un livre qui veut durer, c'est un livre que l'on doit lire de plusieurs façons, non ? Ou en tout cas qui permet une lecture variable, une lecture changeante. Et pour les grands livres, alors chaque génération le lit d'une façon différente, non ?
Assurément.
Évidemment. Ce n'est pas le cas de parler de la Bible, non ? C'est trop évident. Mais c'est vrai, en même temps, évidemment.
Thank you.
La musique de Chelsea pour faire résonner la voix que vous sembliez apprécier, Marc-Antoine Mathieu, et les mots de Borges, ici en entretien avec Charbonnier en 1965. Bon, Borges, évidemment, c'est une référence qui s'impose quand on connaît ou quand on découvre votre travail, et ou Kafka, mais presque en duo, comme ça. Est-ce que, vous qui disiez tout à l'heure qu'une des vérités de la bande dessinée, c'est d'emprunter le même temps que la littérature, on a parlé de vos lectures scientifiques, est-ce que cette littérature-là, d'histoire, elle aussi, de récit, est une littérature qui vous accompagne régulièrement? Est-ce que
oui,
vous la lisez?
En tous les cas, elle m'a fondé, exactement comme, autant que Fred, quand j'ai lu, pour le coup, Borges, plus adolescent. Là, c'est un monde qui s'ouvre. Borges, c'est un ouvreur, quoi. Un ouvreur de porte, un ouvreur de monde. Et ça marque d'une manière indélébile. J'ai presque envie de dire qu'on n'a pas forcément besoin de le relire quand on le lit comme je l'ai lu, quoi.
Ça modifie les rouages.
Voilà, ça a mis une graine qui forcément a fait énormément de petits. On a même presque peur de le relire. Ça aussi, c'est un signe des grands livres pour accompagner ce qu'il disait. Et quand j'ai fait Sens, j'ai repensé à lui, mais après avoir fait Sens, puisque finalement, Sens, je me suis rendu compte après coup que j'avais fait un labyrinthe. Et cette histoire de labyrinthe, évidemment, m'a beaucoup accompagné, enfin, comme pas mal de gens aussi, mais sans doute, évidemment, comme Borges. Mais le labyrinthe, quelle figure du labyrinthe faire qui n'a pas déjà été faite? Et puis, de toute façon, vouloir faire le labyrinthe frontalement, c'est accepter de s'y perdre et ça peut être dangereux. Donc, il faut oublier le labyrinthe pour peut-être l'envisager et puis le réaliser sans qu'on s'en aperçoive. Moi, c'est ce qui s'est arrivé.
Dans les rêveries, il y en a encore.
Il y en a aussi, bien sûr. Mais il y en a aussi dans Julius. Il y en a, le labyrinthe est toujours au détour des ruelles et au détour des dunes dans mes livres. Mais Sens, ça m'a frappé après coup. En fait, j'ai fait un labyrinthe à l'envers. Un peu comme ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire quelque chose de décalé, mais encore une fois, sans m'en apercevoir. C'est-à-dire un monde où tout est fléché, mais où il n'y a pas de mur. C'est exactement l'inverse du labyrinthe.
Quelle angoisse. et simplement, vous disiez, c'est un peu dangereux de s'y perdre complètement dans le labyrinthe, qu'il soit borgésien ou autre. Est-ce que parfois, pour ces trois rêveries-là, Marc-Antoine Mathieu, pour d'autres travaux, vous vous êtes dit, ah mais là, je perds complètement la boule en dessinant. Ça devient trop profond, trop gigantesque pour moi.
Pas vraiment. On a des doutes, évidemment. On se dit, mais est-ce que là, est-ce que ça a encore du sens?
C'est pas ma question. Non. C'est parfois. Oui. Est-ce que, comme votre travail fait que on peut perdre la prise. Enfin, même on est invité à ne plus se demander sur quoi ça tient en termes de causalité. Comment est-ce qu'on en est révélé, etc. Est-ce que pour vous-même, c'est un vortex trop important du point de vue de la sensibilité?
Non. Non, pas trop important. Avec le temps, on a appris à gérer, mais à être bien là où on doit être. C'est pas facile, c'est-à-dire, et là encore, on le comprend après coup. Mais pour celui qui a décidé simplement de chercher à son rythme, tranquillement, il ne s'agit pas de forcer, il ne s'agit pas non plus d'aller trop lentement, mais essayer simplement de faire le bon mouvement, la bonne chose au bon moment, même si on a pu faire plein de choses qui nous étouffent par ailleurs, toujours avoir cette voix un peu intérieure qui nous souffle que là, peut-être, il y a des moments où tu peux être simplement toi. À partir du moment où on a un peu travaillé ça, ça nous est donné, ça nous est offert à un moment donné, et moi ça s'est produit plusieurs fois, ouais.
Donc ça y est, maintenant vous avez un endroit où vous pouvez être vous-même ou avec vous-même ou en vous-même.
Disons que je sais que ça existe. Par contre, où est-ce que c'est et quand c'est, ça je ne le sais jamais. Il faut simplement être disponible pour rencontrer ces moments-là et puis être dans ces lieux-là. Il faut simplement être un peu à l'écoute. Mais encore une fois, ces moments d'écoute, ces moments justement de rêverie, puisque c'est ça, hein, la rêverie, c'est l'écoute à soi-même finalement. Il faut simplement, de temps en temps,
Y faire un peu de place.
Les faire venir, quoi, les attendre. Les... Exactement comme dans le sentier, bon, être un petit peu de temps en temps à l'écoute du cri de la chouette ou au fond du bois.
Trois rêveries, c'est le titre de ces trois rêveries. Homo temporis, homo langos, homo faber, paru aux éditions Delcourt. Merci beaucoup, Marc-Antoine Mathieu.
Merci à vous.
Qu'il s'agisse du cuivre ou du verre ou du grès, cependant que le feu agit, l'homme se consume. Il veille, il brûle. Il est à la fois un joueur dont la chute d'un dé va décider le sort, et pareil à quelque âme anxieuse en prière. Sa main qui suscita le feu, qui le nourrit, le pousse, le tempère, guette l'instant unique de lui retirer cette formation incandescente qu'il vient de produire et qu'il va détruire dans l'instant suivant, comme le fait de ses créatures l'aveugle et le monotone puissance de la vie. C'est de même que le poète doit promptement arracher à son esprit et fixer aussitôt l'accident précieux de son enthousiasme, avant que ce même esprit, emporté au-delà du plus beau, le reprenne, le dissolve et refonde dans ses combinaisons infinies. Mais toute la vigilance du noble artisan du feu, tout ce que son expérience, sa science de la chaleur, les états critiques des températures de fusion et de réaction lui font prévoir, laisse immense la noble incertitude. Elles n'abolissent point le hasard. Son grand art demeure dominé et comme sanctifié par le risque.
Et voilà, ça c'est notre petite secousse cadeau de Martinelli qui lit Paul Valéry pour vous souhaiter une très belle nuit, une très belle soirée ou un très beau jour. Au son ce soir, c'était Valérie Lavalard, à la réalisation Lise-Marie Barré. Un grand merci à Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Lou Quevauville et Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission. Elle peut se réécouter sur franceculture.fr à vie et quand vous voulez dans vos oreilles en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. À demain.